Radio Kapi.
Le nouveau narratif qui doit être mis en place ne vaudra rien sans une presse responsable. C'est avec cette recommandation que le chef de l'État, que vous suivez tout de suite en ouverture de ce journal, a ouvert les travaux des États généraux de la presse ce mardi ici à Kinshasa. Patrick Muyaya, ministre de la Communication, donne aussi de la voix à ce sujet. Dieudonné Amouli, commissaire divisionnaire et commandant de toute la police congolaise, tape du poing sur la table et interpelle les policiers de la circulation routière quant à leur mauvais agissement sur la voie et aussi certains commandants d'unités auteurs des recrutements illicites au sein de la police. Et en fin de cette édition, Benjamin Assimoni, président du conseil urbain de la jeunesse de Beni, s'entretient avec Marc Marofimbo sur la redynamisation des associations des jeunes quant à la paix et le développement. Restez avec nous, vous qui nous faites confiance au quotidien pour vous abreuver en actualité sur Radio Okapi. Fidèles auditeurs, bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, cette nouvelle. En Ituri, 14 personnes ont été tuées hier lundi par des présumés rebelles des ADF à Luna Samboko dans le territoire d'Irumu. Selon des sources locales, ces miliciens ont incendié des maisons et emporté des biens de la population. Face à cette énième attaque armée contre des civils sur l'axe Komanda Luna, des organisations de la société civile et notables locaux appellent les autorités à lancer enfin des opérations militaires conjointes FRDC armée ougandaise dans cette région pour mettre fin aux exactions des assaillants contre les civils. C'est ce mardi 25 janvier que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert les États généraux de la presse sous le thème « Médias congolais, quelle perspective à l'ère du numérique face aux défis du développement durable ?» Le chef de l'État a rappelé dans son discours que les médias ont un rôle indispensable à jouer pour le développement d'un pays et que le nouveau narratif qui doit être mis en place ne vaudra rien sans une presse responsable. D'autres détails avec vous, Jean-Francis Mouya.
Dans son adresse, le chef de l'État a invité en outre les journalistes et les professionnels des médias à être des alliés du gouvernement, notamment dans la lutte contre la corruption et le tribalisme.
Mesdames et messieurs, je ne terminerai pas mon adresse sans vous exhorter à nous accompagner dans nos efforts pour le redressement de notre cher et beau pays. Devenez nos alliés dans la lutte contre les antivaleurs, notamment dans la dénonciation du tribalisme, du nespotisme, du trafic d'influence, de la corruption.
Le ministre de la Communication et Médias a quant à lui précisé qu'il est vrai qu'à l'ère du numérique, n'importe qui peut exercer des activités à caractère journalistique et les diffuser sur différentes plateformes de communication que la technologie met à notre disposition, mais que cela n'est pas suffisant pour faire d'une personne un professionnel des médias.
Il est vrai qu'avec son smartphone, n'importe qui est en mesure de filmer un événement, d'en rendre compte, c'est-à-dire de le partager via les différents réseaux sociaux. À partir de cet exploit technologique que permettent les nouvelles technologies, l'illusion de s'autoproclamer journaliste est grande. Tout le monde peut donc diffuser des messages, des images, y compris des scoops à l'intention du grand public. Mais cela ne confère pour autant pas les statuts de journaliste.
Patrick Muyaya a aussi rendu hommage à quelques personnalités présentes à la cérémonie, en l'occurrence Jolino Makelele et Lambert Mende, qui l'ont précédé à la tête du ministère de la Communication et des Médias.
L'actualité, c'est aussi au sud Kivu. Les habitants du quartier Nyalukemba Angouba, en commune d'Ibanda, dans la ville de Bukavu, réclament le rétablissement urgent de la desserte en eau de la régie des eaux. Ils affirment avoir passé plus de 3 mois sans eau au robinet. Des dizaines des hommes, femmes et enfants ont manifesté ce mardi jusqu'au siège provincial de la régie des eaux sud Kivu. Maître Faustin Batoumike, initiateur de la marche, est joint par Emmanuel Elamejua Kabedi.
Nous sommes au plancher de Mouba, nous sommes en train de réclamer à ce que la régie des eaux nous établisse de l'eau dans nos robinets. Parce que ça fait pratiquement 3 mois sans que l'eau ne coule dans nos robinets. C'est-à-dire que pour prévenir les maladies d'origine hydrique, nous avons décidé ce matin d'organiser une marche pacifique afin de dire à la régie des eaux que nous, population de Mouba, nous ne voulons plus à ce que nous puissions vivre dans ce chaos. Ça ne se comprend pas que nous puissions vivre sans eau dans la ville de Bukavu. Tout le monde réclame l'eau. Tout le monde dit qu'il faut que l'eau soit rétablie le plus tôt possible dans nos robinets. Et il aurait fallu que la régie des eaux nous prévienne et puisse prendre ses responsabilités. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer que chaque fois nous sommes en train de payer les factures pour la régie des eaux. Mais malheureusement, on dit qu'il n'y a pas l'argent pour acheter les motopompes juste
En réponse, la Régie des Eaux Sud-Kivu reconnaît cette situation qu'elle attribue à une série de pannes sur ses machines. Le directeur provincial Ntumba Kayembe promet de rétablir de l'eau dans cette partie de la ville de Bukavu dès ce mercredi 26 janvier 2022. Par où sont passés les quelques 5 000 $ américains destinés aux frais de transport des enseignants de la sous-division provinciale de l'éducation de Mambasa 1 qui ont suivi une formation de la Banque mondiale depuis un mois à Ituri? La société civile du territoire de Mambasa exige des explications de leur côté. Les enseignants exigent l'implication des autorités pour qu'ils soient remis dans leurs droits. Mais pour le sous-prévôt de Mambasa 1, cet argent n'était destiné qu'au seul chef d'établissement. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Plus de 300 enseignants de la sous-division provinciale de l'EPST Mambasa 1 avaient pris part à une formation organisée par la Banque mondiale en décembre 2021 sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Après cette formation, les participants affirment avoir signé des documents qui leur accordaient une somme de 20 $ à chacun au titre des frais de transport qu'ils n'ont jamais reçus jusqu'à ces jours, réclament-ils. Ils pointent du doigt les autorités scolaires de Mambasa qu'ils accusent d'avoir détourné cette somme d'argent.
De lui-même, il s'est fait. Nous nous condamnons ça. Il doit venir remettre cette somme. On en a déjà. On en a mal déjà. Comment est-ce que nous allons continuer encore à vivre?
Des allégations rejetées par les responsables de la sous-division provinciale de l'éducation Mambasa 1, Dieudonné Azaba. Pour lui, c'est une confusion entre les responsables de cette formation et les autorités scolaires. Dieudonné Azaba explique.
Il y a une contradiction entre l'équipe de Kinshasa, venue pour ce même projet, et la chargée de Perse. Tout le monde devrait avoir le transport. Mais malheureusement, arrivé à Bougne avec tous les documents, la chargée de Perse qui était à Arouya est revenue à Bougne pour nous dire que non, seul cet établissement devrait avoir sa chargée, mais pour les enseignants, il n'y en a pas.
Le bureau local du Parlement des jeunes appelle les autorités scolaires à remettre ces enseignants dans leurs droits pour ne pas perturber les activités scolaires. Bougna, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
À Beni, la vie a repris son cours normal ce mardi après une journée de tension lundi où la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression a envoyé ses sympathisants dans les rues pour réclamer la fin de l'état de siège. Ce mardi, les activités ont repris, bien que dans certains quartiers de la partie ouest de la ville, des barricades sont encore visibles. Marc Marofimbo pour Le Point.
Ce mardi matin, la vie a repris son cours normal dans la ville de Beni après les manifestations de ce lundi. Les commerces ont ouvert leurs portes, tout comme les banques et les écoles. Les quartiers commerciaux de Matongé, qui étaient déserts lundi, est de nouveau animé comme à l'accoutumée. Pareil au petit et grand marché central de Kilokwa, où toutes les activités tournent normalement. Par ailleurs, dans la partie ouest de la ville, notamment dans les quartiers Kangaimbi et Bakongo, certaines barricades sont encore visibles et les forces de l'ordre sont toujours à pied d'œuvre pour les dégager. La police parle de 34 personnes interpellées lors de cette manifestation, dont 24 sont déjà libérées, tandis que 10 sont encore entre ses mains. Leurs auditions se poursuivent, indique-t-elle. Cependant, elle déplore la perte à vie humaine enregistrée parmi les manifestants dans les quartiers Kanzuli, ainsi que le sandu d'une moto. Dans son message ce lundi, les porte-parole et conseiller spécial du gouverneur du Nord Kivu a appelé les jeunes au calme. Le général de brigade Sylvain Ekenge les a encouragés à s'engager pour un dialogue sincère avec les autorités afin de changer sur leurs préoccupations. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Le commissaire général de la police nationale congolaise dresse un tableau sombre du travail de certains policiers, surtout ceux ayant dans leur attribution la réglementation de la circulation routière. Général Amouli l'a dit ce mardi au cours d'une parade organisée au Stade des Martyrs à Kinshasa. Il a aussi fustigé la mauvaise pratique de certains officiers de la police nationale congolaise qui introduisent certains jeunes sans formation au sein de la police et leur donnent les armes. Ce sont ces faux policiers qui sont à l'origine de beaucoup d'abus au sein de la PNC. Blaise Shindani pour les détails.
Le patron de la police nationale congolaise ainsi que ses hommes ont bravé la pluie pour tenir sa causerie morale. Toutes les unités de la PNC de Kinshasa suivaient religieusement sous une forte pluie les instructions de leur commandant en chef qui visiblement n'était pas fier de leur comportement.
Nous revenons encore une fois avec les pratiques honteuses des PCR. Ta mission est de réglementer la circulation. Dans des grandes villes comme Kinshasa, nous avons les phénomènes embouteillages. Mais la plupart de ces embouteillages sont provoqués par nous-mêmes, éléments de la police. Au lieu de veiller à la fluidité des véhicules qui doivent circuler, mais toi tu reviens à des mauvaises habitudes à chercher à rançonner les conducteurs. On peut même te remettre un morceau de papier hygiénique sans regarder, tu enfonces dans ta poche.
Concernant les altercations enregistrées ces derniers temps entre les éléments de la PNC commis à la garde de certaines personnalités et les FARDC, le général Amouli a rappelé à ses hommes qu'ils devraient s'entendre avec leurs collègues de l'armée
travail puisqu'ils ont tous la même mission.
Quand on est dans la même mission, on est appelé à s'entendre. Le commandant CPM lui-même m'a tiré les oreilles. Il a insisté que nous puissions parler aux policiers et les chefs MJ venaient de le faire aussi aux militaires. Donc nous sommes appelés à travailler la main dans la main et la police et l'armée puisque nous avons les mêmes missions.
La causerie morale s'est terminée par un grand défilé de toutes les unités de la PNC.
Parlons de cette autre actualité concernant les policiers au Kassai Oriental. Le directeur général des écoles et formations au sein de la police nationale congolaise demande aux parents d'envoyer les enfants bien éduqués au sein de la police pour permettre à la RDC d'être dotée d'une police de qualité. Général-major Célestin Kanyama l'a dit ce lundi après le lancement de la formation sur les lignes directrices de premier secours basique suivie d'une causerie morale à l'intention de près de 200 agents de police du Kassai venus en formation à l'école de police de Chipuka. Selon le directeur général des écoles et formations, pour que la police soit de qualité, les parents doivent faire recruter les enfants bien éduqués et instruits. Écoutons ici Général-major Célestin Kanyama.
Nous demandons à la population de continuer à faire confiance à la police, mais en envoyant les meilleurs de leurs enfants pour qu'ils soient formés et qu'ils participent à la sécurité de notre pays. C'est très important. Il ne faut pas que les gens se plaignent qu'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Dans ta famille, tu as combien de policiers que tu as? Puisqu'il faut envoyer les meilleurs de tes enfants, les docteurs, des licenciés, des gradués, des diplômés qui prennent part à la formation de la police. Pour que tu sois sûr qu'au sein de la police, j'ai mes enfants qui sont là et qui ont un bon comportement. Mais il ne faut pas nous amener vos voyous, qui les bombés là, les bombés vous les amenez à la police, les fumeurs du champ, ce sont ceux-là que vous voyez en cours de votre entraîne de danser avec une arme à main, et ils se disputent des fois avec les chauffeurs, avec les montagnes. Ce sont des voyous que vous avez envoyés au sein de la police. Mais les meilleurs des policiers, vous ne les verrez jamais faire ça.
Le maire de Lubumbashi est suspendu de ses fonctions ce lundi 24 janvier. La décision est du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Affaires coutumières et décentralisation. Daniel Asselo reproche au maire d'avoir donné des ordres confus aux forces de l'ordre lors de la manifestation organisée par certains partis politiques membres du FCC pour réclamer la libération de pasteur Ngoï Mulunda. Cette marche était réprimée par la police. Jean Ngandou.
Cette décision est contenue dans un télégramme envoyé au maire de Lubumbashi, Lubaba Bulouma. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur reproche au maire de Lubumbashi d'avoir donné les ordres confus au sujet d'une marche à l'initiative d'un acteur politique, situation qui a créé des difficultés aux forces de défense et de sécurité pour assurer l'ordre public. Le même document indique que l'autorité urbaine est suspendue de ses fonctions de maire de Lubumbashi et qu'il devrait prendre toutes les dispositions pour rejoindre Kinshasa dès la première occasion. S'il y en a qui saluent cette mesure, les autres disent ne pas comprendre qu'on en arrive à la suspension du maire, car ce n'est pas lui qui a donné l'ordre aux policiers d'user de la force disproportionnée pour disperser les manifestants. Notons que le 18 janvier dernier, une manifestation organisée par le parti politique membre du Front commun pour le Congo pour exiger la libération du pasteur Ngoï Mulunda a été réprimée et plusieurs manifestants étaient blessés, parmi lesquels les députés nationaux. Cette affaire a mobilisé plusieurs structures de la société civile qui ont dénoncé la violence qui a émaillé cette manifestation, pourtant autorisé par le maire de Lubumbashi. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, il y a au moins 7 grands bourbiers sur la route Kindu-Kasongo qui dérangent le passage de la population. Pour permettre une libre circulation, le gouvernement provincial a remis hier lundi 24 janvier à l'Office des routes un bon de livraison de 6500 litres de carburant, 300 litres de lubrifiant pour la réhabilitation de ces points chauds partant du P43 jusqu'au PK80 sur la route nationale numéro 31. On écoute Mange Diakese, directeur provincial de l'Office des routes, dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Gouverneur, sachant que la route de Kindu-Kasongo était financée en partie au mois de septembre, et que l'office de route a travaillé de Kasongo jusqu'à Kunda, et entre Kunda et Kindu, il y a à peu près 7 ou 8 grands bourbiers qui gênent la circulation des personnes et leurs biens. C'est ainsi qu'il a mis la main dans la poche pour chez les 7 ou 8 bourbiers qui gênent la circulation. Donc, même s'il est en train de pleuvoir, eh bien, l'office de route va faire son travail. Les matériels, pour le moment, sont stationnés au village Mwanga, entre 33 et 80. Et nous allons pour ces points-là. Le gouverneur nous a dit, vous allez supprimer les bourbiers qui posent problème aux gens. Nous commençons des PK 80 à 33 ici.
Actualité internationale.
Au moins 32 personnes de l'ethnie Dinka, dont des femmes et des enfants, ont été tuées dans des attaques menées dimanche dans une région du Soudan du Sud, minée par les violences intercommunautaires, selon un bilan communiqué mardi par l'ONU. Ces attaques meurtrières visant deux villages situés dans la localité de Baldit dans l'état oriental du Jonglei ont été menées par des jeunes armés de l'ethnie Mourel qui ont ouvert le feu et incendié des maisons, faisant fuir les habitants. Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a limogé lundi l'ensemble de son gouvernement, une décision inattendue s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre la corruption. J'ai dissous l'ensemble de mon cabinet avec effet immédiat et toutes les fonctions du cabinet reviennent à mon bureau jusqu'à ce que j'annonce un cabinet reconfiguré dans deux jours, a déclaré Lazarus Chakwera dans un discours national. Le gouvernement reconfiguré exclura le ministre des Terres, Kezie Mukswa, qui a été arrêté le mois dernier dans une affaire de corruption. Il s'agit de lui permettre de répondre aux accusations de corruption dont il fait l'objet devant un tribunal et d'y laver son nom, a déclaré Lazarus Chakwera. L'invité. Notre invité est le président du Conseil urbain de la jeunesse de Béni. Il revient sur l'utilité de l'atelier de redynamisation des organisations et associations des jeunes de la ville de Béni qui œuvrent dans le cadre de la paix et du développement, atelier qui s'est clôturé samedi dernier. Benjamin Assimoni répond aux questions de Marc Marofimbo.
Monsieur Benjamin Assimoni, bonjour.
Bonjour.
État des lieux de leadership et engagement de la jeunesse pour la paix et le développement, pourquoi avoir organisé ce genre d'atelier?
Nous sommes en train de passer en revue le degré d'intervention des associations de la jeunesse et tous les autres mouvements par rapport aux deux grands défis de notre communauté. C'est d'abord les défis sécuritaires qui a engendré un deuxième défi automatiquement qui est le défi sur le plan des développements. Nous sommes en train de vouloir savoir maintenant, est-ce que réellement les jeunes réunis dans des associations ont-ils vraiment des plans d'action pour le développement et la sécurisation de leurs communautés respectives. Donc après ces activités ici, que nous sommes en train d'ailleurs d'appeler consultation, sortira maintenant un plan d'action pour pouvoir booster à un certain niveau les degrés d'engagement et de leadership de ces jeunes-là pour que, en tout cas, les actions de la jeunesse apportent un ouf de soulagement à ces défis de la communauté parce que ça s'est dit que la jeunesse, c'est le sel de la communauté. Et si ce sel n'est pas vraiment en dose suffisante, c'est-à-dire la communauté va demeurer sans goût le plus longtemps possible, donc sans développement et sans lueur d'espoir d'avoir la paix.
Alors, chaque organisation a son programme et coordination des activités selon son domaine. Quand vous parlez de cet état des lieux du leadership pour la paix et le développement, est-ce ces organisations travaillent en ordre dispersé ou sans tenir compte des ententes des bénéficiaires dans la population?
En tout cas, en ordre dispersé, parce que dans notre agenda, il y a une étape où nous avons fait un petit jeu de démonstration sur l'importance et l'essence des coordinations dans les actions de paix et de développement. Les associations ne sont même pas capables, dans une seule commune, ne sont même pas capables de savoir les besoins prioritaires de la communauté en général en matière de développement. Et ces mêmes associations qui sont censées être des vecteurs de changement ne savent pas les besoins prioritaires de la jeunesse. On est allé jusqu'à une liste de plus de 5 besoins prioritaires juste pour quelques feedbacks venus des 10 participants. Donc, c'est-à-dire, ces organisations travaillent chacune selon ses pensées, selon ses conceptions, mais la communauté n'en profite en rien. Et donc maintenant, comme le Conseil de la jeunesse a ce mandat-là de la part du ministère de la jeunesse, de faire la coordination des actions de toutes les associations de la jeunesse, également de demeurer l'unique organe de consultation en matière des politiques d'encadrement de la jeunesse, voudra maintenant au niveau de Béni avoir un plan stratégique qui pourra être un guide ou soit une orientation pour toutes les actions de la jeunesse de manière coordonnée, bien sûr en laissant à toute structure sa marge de manœuvre en tant que structure autonome, mais qui est au moins aussi des actions de coordination pour des questions majeures, la paix et le développement, qui ne sont pas des questions individuelles, mais une question de tous. Et dans l'union, la jeunesse peut faire quelque chose. Mais en séparation, la jeunesse ne peut rien faire autre que le désordre ou bien un travail sans efficacité ou sans résultat.
Et comme vous visez la paix et le développement par les biais de la jeunesse, comment vous allez redynamiser les actions de ces organisations de la jeunesse afin qu'ils œuvrent pour l'intérêt de la population?
D'abord par l'actualisation et orientation de plusieurs associations de la jeunesse qui se disent être associations, bien sûr, mais qui sont juste en caractère d'entraide mutuelle. On a des mutualités, mais qui sont là juste pour des cas de solidarité sociale. Mais des actions de développement et de sécurité, il n'y en a pas. Et en deuxième lieu, maintenant, la stratégie qui est inévitable, c'est par l'organisation des coalitions, comme nous avons commencé par la coalition Jeunesse, Paix, Sécurité, que nous pouvons appeler autrement des groupes de travail selon les domaines d'intervention communs, pour que nous sachions aussi faire ce travail de coordination de manière ordonnée.
Benjamin Assimoni, nous vous disons merci.
C'est les conseils urbains qui vous remercient.
À vous, aimable auditeur, nous disons aussi merci d'avoir suivi cette édition de journal préparée par Élisée Chikota, Noëlla Luzitu et Alain Irung. Billy Ivan Lutumba était à la présentation. Au nom de toute cette équipe, nous vous disons une fois de plus merci et continuez à vous informer sur www.radiookapi.net.